Je vous invite dans le livre de Ruth, au chapitre 2, et pour regarder aussi de ces personnages uniques qu'on retrouve dans les Écritures, Ruth et Boaz. Et j'aimerais vous lire juste quelques versets avant de commencer, au chapitre 2, verset 1. On dit que Naomi avait un parent de son mari. C'est un homme puissant et riche. C'est une interprétation du mot pour dire il est un homme vaillant ou un homme, et ce mot-là, vaillant, pouvait dire un homme vertueux, un homme de guerre, un homme extrêmement doué, un homme aussi qui avait beaucoup de possessions. Ça dépend du contexte. Et donc, on l'interprète ici comme étant parce qu'il avait beaucoup de terre. Alors, certainement, c'est un homme puissant et riche de la famille d'Élimélec, donc de l'époux de Naomi. Et son nom était Boaz. Et Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans les champs. » Glaner voulait dire, je vais ramasser les restants en arrière de ceux qui travaillent dans les champs, je vais prendre les restants, puis je vais accumuler tout ça en espérant qu'il y a assez de restants pour peut-être faire un repas ce soir. OK? C'était un équivalent de mendier, mais en travaillant et non juste en recevant sans effort des autres. Et puis dans les champs de ceux qui... de glaner des épis dans le champ, de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Donc, elle reconnaît que le champ dans lequel elle doit se retrouver, c'est quelqu'un qui va la regarder favorablement, gentiment, et lui permettre de venir glaner sur son terrain les restants. Parce qu'encore, il pouvait trouver des propriétaires qui disaient, « Non, on va glaner ailleurs, là, tu sais, là, je suis pas intéressé, là, vous autres les mendiants, ou avoir une attitude condescendante, chose qui aurait dû pas arriver. » Voilà le frère Jean-Marie, justement. Regardez-le, tout le monde. Ce nouveau frère marié. Alors, Jean-Marie, tu me fais, on vient de parler de toi, on vient de féliciter que tu t'es marié il y a 2 ans, on se réjouissait, puis t'étais pas là, et là, tu rentres dans la salle et t'as toute notre attention. C'est lui, Jean-Marie. Tu peux t'asseoir maintenant. On se réjouissait et on te félicitait pour le mariage. Quelle entrée, hein? Ça t'arrive pas souvent, Jean-Marie, hein? Un homme discret d'habitude est là, tous les yeux sur toi, mais c'est parce qu'on se réjouit avec toi du mariage. Transmets notre affection à ton épouse au pays. Alors, je continue avec cette belle distraction agréable au verset 3. Désolé de la distraction, je l'ai vu là, je ne pouvais pas éviter de le dire là. Alors, notre amie Naomi glana dans un champ, derrière des moissonneurs, et elle se trouva par bonheur dans la parcelle de terre appartenant à Boaz, elle ne le sait pas du tout, qui était dans la famille d'Élimélec. Et voici Boaz, vint de Bethléem, et il dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit avec vous. » Il leur répondit, « Que l'Éternel te bénisse. » Alors, on parle ici de cette discussion quand il voit ses employés, il vient sur le champ travailler, puis voici comment ils saluent les uns les autres. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « Et c'est qui elle ?» Je la connais pas, elle me dit rien, mais ça, son visage est nouveau. Alors, il remarque ses employés, cet homme-là. Et il y a une petite nouvelle dans les champs. Combien il y avait d'employés, je ne sais pas, mais il le remarque. Et le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « Ah, c'est la jeune femme Moabite qui est revenue au pays avec Naomi. Ah, oui, oui, on avait parlé de cette fille-là. Ah, qui c'est elle? Là, je mets un visage. » Et il dit, « Permettez-moi. » Et elle dit, et là, évidemment, il raconte ce qu'elle a demandé, « Permettez-moi de glaner, de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est point reposée qu'un moment dans la maison. Et Boaz dit à Ruth, « Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici. Reste avec mes servantes. » Donc, on voit qu'il y a des hommes et des femmes ici qui travaillent. « Regarde où l'on moissonne dans les champs et va après elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que mes serviteurs auront puisé. » Alors, elle tomba sur sa face, se prosterna à terre et lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère. » Elle n'a aucune idée qui s'appelle Boaz, elle n'a aucune idée c'est qui, elle ne sait pas que c'est un proche parent de sa belle-mère, rien de tout ça, là. Et Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. » Ah, elle avait une réputation qui la précédait. Depuis la mort de ton mari. Et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant? Que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Et le mot ici, là, que l'Éternel te rende, là, c'est fort. C'est un mot qui est connecté avec le mot paix. Et quand tu fais une alliance de paix avec quelqu'un, il dit que l'Éternel te bénisse comme quand il fait une alliance de paix avec quelqu'un. C'est très, très fort. C'est pas juste de recevoir ton salaire. C'est de recevoir ton salaire de la part d'une relation de grâce avec Dieu. Et que ta récompense, là, ici, soit entière, qu'elle soit complète, cette récompense, de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Par l'action qu'elle avait décidé de faire, elle venait se réfugier sous les ailes de Dieu. Une expression qu'on retrouve dans la loi de Moïse, dans les Actes et dans Deutéronome, pour exprimer quelqu'un qui fait confiance à Dieu et que Dieu va prendre soin de lui, c'est son engagement envers Israël. Et donc, de venir en Israël sous le Dieu d'Israël, c'est un geste de foi de venir se placer sous son aile protectrice, bienveillante, attentionnée, pour prendre soin d'elle comme un petit enfant. Quelle belle image! Et c'est ça que tu as fait comme choix en venant ici, de te placer sous l'aile protectrice, attentionnée de l'Éternel. Et elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé. » C'est fort le mot, « consolé. » Parce que c'est une femme veuve. Donc, tout acte de grâce envers elle, de bonté, et pour elle, un bien-être de la part de Dieu qui calme son cœur, qui la rassure que Dieu prend soin d'elle, qui l'aide à passer à une autre étape de sa vie. Il y a une œuvre de consolation qu'elle a besoin, cette femme en veuvage. Et là, juste son action la console, lui fait du bien. Et tu as parlé au cœur de ta servante. Une expression aussi très forte, c'est l'expression qu'on utilise lorsqu'un homme parle au cœur d'une femme, pour parler à ses sentiments, pour la rassurer. C'est une parole qu'un homme qui courtise une femme, un peu comme on lit de l'histoire de Sichem avec la fille des Israélites, Dina, et on dit qu'il parle à son cœur. C'est un langage très, très fort, de cœur à cœur, de savoir parler le langage émotionnel de la femme et de parler dans son langage pour la rassurer et de comprendre qu'on comprend ce qu'elle vit. Il parle, t'as parlé à mon cœur. T'as fait un geste là, qui vient combler puis parler à mes émotions, me rassurer. C'est fort. Donc, un homme très attentionné ici. Et pourtant, je ne suis pas moi comme l'un de tes servantes. Je ne suis rien, je t'en ai connu, je suis une étrangère. Et au moment du repas, Boaz dit à Ruth, « Approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Elle s'assit à côté des moissonneurs, on lui donna du grain rôti, elle mangea, se rassasia. Donc, elle a été vraiment le ventre plein et elle garda des restes tellement qu'elle avait le ventre plein. Puis, elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs qu'elle glane aussi entre les gerbes. Et ne t'inquiétez, ne l'inquiétez pas. Ou même, ne pas la malmener littéralement. Soyez pas durs avec elle. On peut imaginer, ça veut dire que peut-être pour des gens étrangers qui viendraient, des fois les gens n'étaient pas gentils et les ouvriers, « Hey, va-t'en là, t'en prends trop. » Puis ça devait être tough de quémander derrière ces hommes qui travaillaient, ces femmes. Et même, vous ôterez pour elle des gerbes de blé, quelques épis. Échappez-en par exprès. Ben, tabarouette, il est bien gentil, lui. Échappez-en par exprès. Il n'avait pas compris l'idée du profit, là. T'en laisses pas une passer, là. Tu gardes d'autres. Il est dans une autre mentalité. Que vous laisserez glaner sans lui faire de reproches. Et elle glana dans le champ jusqu'au soir. Et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y avait environ un épha. Bien, que le Seigneur bénisse la parole de Dieu dans nos cœurs. Amen. Ainsi soit-il. Beaucoup de choses à dire ce matin, et je vais juste vous résumer un peu ici, vous placer un peu dans le contexte du livre en premier. On est dans Ruth, on l'a commencé il y a trois semaines de cela, le livre de Ruth en quatre chapitres, donc en quatre prédications qu'on va le regarder. Et c'est de garder espoir dans un monde chaotique. Alors qu'on a regardé le livre des juges, qu'on voit comment les gens vivent selon leurs yeux, ce qu'ils ont goût de faire, selon leur propre morale, à une époque comme nous, où chacun fait sa propre religion, chacun va selon ses yeux, ce qu'il voit et ce qu'il désire, ne te prive pas, et etc. Dans une époque chaotique, il y a tout à coup, après avoir lu le livre des juges et que ça finit sur une note extrêmement négative, qu'on se dit, y a-tu de l'espoir dans une époque comme les juges? tout à coup, le livre de Ruth, qui est collé derrière, nous dit oui, on peut avoir de l'espoir. On peut avoir de l'espoir dans une époque qui semble désespérante. C'est possible. Et l'histoire de Ruth nous raconte cet espoir possible au milieu du chaos. Et ça nous réconforte. Qu'il y a même au milieu de tout ce monde-là, il y a des gens bien qui restent collés au Seigneur. Même au milieu de tous ces gens-là, Dieu fait des clins d'œil formidables qui nous rassurent, qui nous fait du bien. Le livre d'Esther nous dit, gardez espoir. Le Dieu des promesses continue à prendre soin des gens, même si on a l'impression qu'il en a oublié quelques-uns au passage. Restons pas sous nos impressions. Le livre de Ruth nous dit, oui, l'espoir contre toute attente. Et le timing ici est vraiment important. Je l'ai souligné à la toute fin du message qu'on allait parler de timing. Pourquoi? Parce qu'on nous dit qu'elle est arrivée au commencement de la moisson de l'orge, au mois d'avril-mai, quelques semaines avant, évidemment, les moissons de l'orge qui précédaient le blé. Et quand l'auteur nous écrit ça, il est en train de nous lancer un signal, il est arrivé à un bon moment. Un bon moment où ce que quelqu'un qui quémande, qui recommence à zéro, peut au moins aller gagner dans les champs et trouver un peu de nourriture. C'était un timing parfait de Dieu, son retour au pays. Et que Dieu, par ce moyen-là, va prendre soin d'elle. C'est un clin d'œil lorsque l'auteur nous dit ça au verset 22 du chapitre précédent et au début de ce chapitre sur le timing du mois d'avril-mai. Et Hébreux nous dit ceci, c'est un texte qui m'est venu à penser lorsque je disais ceci sur le timing, et on va reparler du timing dans les premiers versets, mais il dit, approchons-nous donc avec, excusez-moi, ah, c'est ça que je voulais justement, ah, pardonnez-moi, là j'ai un petit chat dans la gorge, et je veux surtout pas qu'il crie, alors, approchons-nous donc avec pleine assurance du trône de grâce, pourquoi? Le but, afin de recevoir miséricorde. Donc, de recevoir quelque chose qu'on ne mérite pas de la part de Dieu. Et nous trouverons grâce pour un aide, pour un secours au moment opportun. Et le mot ici, je l'ai mis en grec pour paraître savant. C'est parce que, au moment opportun, c'est comme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire littéralement, au bon moment, tout simplement. Au moment choisi de Dieu. Par le mot kairos, c'est utilisé pour dire, c'est pas un moment chronologique, comme je dois finir à telle heure. Ça, c'est chronologique, vous voyez? Et les Grecs font la différence entre quelque chose qui est chronologique, c'est du grec qui vient de haut, chronos. Alors, quand on parle de timing, du temps divin, on parle de kairos, c'est-à-dire le moment que Dieu devait venir, le moment que se fasse la volonté de Dieu, le moment de Dieu. Et le bon moment, c'est Dieu qui le connaît. Quand les choses arrivent juste au moment opportun, le bon temps. Et ce qu'on parle ici, évidemment, c'est du timing de Dieu. La Bible nous dit que les voies de Dieu sont plus élevées que nos voies, que ses pensées sont plus élevées que nos pensées. Cela signifie que le calendrier de Dieu ne correspond pas toujours à nos attentes et nos désirs. Cependant, nous pouvons être sûrs que son timing, il est parfait et il est utile. L'Ecclésiaste dit dans chapitre 3, « Il y a un temps pour tout. » Un temps pour chaque chose sous le soleil. Et ce verset nous rappelle que Dieu a un plan et un calendrier parfait pour chaque aspect de nos vies et qu'il est aux commandes. Et donc, qu'il mérite que je lui fasse confiance pour le timing que je ne peux pas contrôler, que je ne peux pas orchestrer. Vous savez, que ce soit avec Abraham et Sarah, qui après la visite de Dieu au bout de 24 ans est tombée enceinte, il y avait un timing que Dieu avait. Mais ça me semble c'est long. Oui, mais Dieu avait une raison. Il n'a rien échappé. C'est pas parce qu'il avait mis le dossier dans la pile des dossiers à interagir sur la pile, puis il avait pris un peu de poussière, puis là, oh, ah, c'est vrai, j'avais oublié eux autres. Il avait prié là-dessus, puis là, Dieu a recommencé à penser à eux autres. Ça n'arrive pas, ça, au ciel, que Dieu oublie un dossier. Dans l'administration canadienne, dans l'administration de votre travail, ça arrive des dossiers oubliés. Mais jamais sur le bureau de Dieu. C'est pas rassurant, ça? Il n'y a pas de dossier oublié. Ou encore Joseph, qui après 22 ans, tout à coup, ses frères lui apparaissent. 22 ans après ce fameux rêve. Il y avait un temps. Il devait être préparé pour les rencontrer. Il devait être en poste. Il devait y avoir une famine, etc. Il fallait que les cartes se placent dans le timing de Dieu. Ça ne pouvait pas se provoquer autrement. Dieu avait un temps parfait. Ou encore, vous savez, les 40 ans de Moïse, où ce qu'il devait vivre l'échec après l'échec, 40 ans de formation dans le désert, avant qu'il soit prêt pour entrer en Égypte, il fallait qu'il ait 80 ans. Ah, Dieu merci qu'il n'attend pas qu'on ait 80 pour nous envoyer quelque part. Mais, vous voyez, il y en a qui sont formés sur le tard. Et Moïse, il n'a pas été envoyé quand il avait 40 ans. Non, à 80 ans, Dieu l'a envoyé dans le pays. Il avait besoin de 40 ans. Il y a un timing parfait de Dieu qui honnêtement, soyons clairs, là, nous échappe complètement. Ça nous échappe complètement, la sagesse de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, ses pensées ne sont pas les nôtres, et les nôtres pas les siennes. Et donc, il mérite ma confiance. Il mérite toute ma confiance. Fait intéressant, ce livre-là et les circonstances, évidemment, du mois d'avril-mai, explique pourquoi les Juifs orthodoxes lisent le livre de Ruth chaque année à la fête de la Pentecôte, qui se trouve être 50 jours après la Pâque. Cette fête commémore pour eux le don de la loi sur le mont Sinaï au moment de la première offrande appelée des prémices de la moisson. Et les fiançailles de Ruth eurent lieu pendant cette période des moissons d'orge dans Ruth chapitre 3 et 4. Et donc, ça explique cela. Un fait intéressant, c'est que les Juifs mettent Ruth dans une catégorie à part qu'on appelle les cinq rouleaux. Et c'est surtout depuis environ 12 à 1500 ans qu'ils font cela. Il y a cinq rouleaux qui sont mis à part de l'Ancien Testament pour être lus à chacune des fêtes importantes d'Israël. Et le Cantique des Cantiques est lu à part à cause de toute la question de l'amour qui est là. Ensuite, il y a Ruth qui est lu à la Pentecôte, et parce que aussi traditionnellement, on attache la naissance chez les Juifs de David, pour lequel, évidemment, le nom apparaît à la fin du livre, qui explique son ancestrage. Sa naissance serait dans ces auras-là aussi également. Donc, le livre est lu à cette époque-là, et ensuite, Lamentation à la chute de Babylone, donc vers la fin d'août, le livre d'Ecclésiaste à la fête des Tabernacles dans le mois d'octobre, et évidemment, le livre de Esther pour la fête des Pourim, qui est un peu avant Pâques. Et pour eux, c'est les livres qu'on lit à chacune de ces fêtes-là. On prend le temps de le lire intégralement en communauté juive. Donc, ce livre, Ruth, est important dans la communauté juive, une place importante. Maintenant, il y a deux manières d'aborder le livre de Ruth. On peut le regarder en fonction de ce que les êtres humains font dedans. C'est-à-dire qu'on approche une approche centrée sur l'action humaine. Après avoir commencé le livre dans les larmes, au chapitre 1, où il y a du deuil, où il y a des moments d'épreuve. Mais au chapitre 2, on poursuit avec les durs labeurs qu'on voit Ruth travailler. Et c'est une femme travaillante, extrêmement louable pour sa vaillance. Et comme elle s'engage avec foi, avec Boaz, on les voit finalement dans l'histoire terminée de façon triomphante avec un mariage et Dieu qui prend soin d'elle. Mais de l'autre côté, on peut le regarder aussi de l'œil de Dieu, de l'action de Dieu. Approcher avec une vision de l'action de Dieu au centre de notre découpage du texte. Et là, on voit le peuple de Dieu qui est infidèle, mais que Dieu les visite quand même. Dieu vient visiter son peuple, même refroidi. Dieu demeure souverain au contrôle de tous les événements et sa bonté est exprimée au verset chapitre 2 et répétée à quelques occasions. On mentionne comment Dieu est vivant et continue à pourvoir généreusement à ses besoins au chapitre 3 et 4. Et donc, il y a des fois des plans du livre qui sont très axés sur les personnages et d'autres plans qui sont centrés sur l'action de Dieu. Et je pense que c'est bon de souligner les deux. Les deux nous montrent cette action de l'action souveraine de Dieu, et en même temps, nous déresponsabilise pas du fait que, comme être humain, là, on a des gestes de foi à poser aussi, en réponse à ce que Dieu nous fait, à ce que Dieu nous donne comme opportunité et exerce la grâce envers nous. Maintenant, une femme qui n'a pas peur de travailler. Alors, la belle-mère, la job, puis Boaz. C'est ce qui se passe dans ce chapitre-là. Et on voit une femme ici qui est travaillante et qui exprime son amour et sa foi, son amour envers sa belle-mère, sa foi dans le Dieu qu'elle vient d'adopter, en saisissant l'opportunité de glaner qui faisait partie de la loi de Dieu. Il y avait des prescriptions liées au fait de pouvoir glaner et permettre aux pauvres, aux étrangers, aux gens démunis, qui n'ont pas de terre, alors que chacun devait avoir des terres. Mais là, rappelez-vous ici qu'elle revient à notre pays, elle a abandonné ses terres, et là, ça fait 10 ans, quelqu'un s'occupe de ses terres à place, les a saisies, et là, elle n'a pas ses terres. Normalement, c'est le mari qui reprendrait le droit sur ces terres-là. Et là, il y a une situation précaire. Et glaner était un moyen dans la loi pour prendre soin de tous et chacun. Et on mentionne ici une drôle de coïncidence, ou peut-être plutôt une dieucidence. C'est une amie de Choubgamo qui me reprenait à chaque fois. À chaque fois que je parlais d'un hasard, elle disait « Non, c'est un dieu-hasard. quand on parlait d'une coïncidence, c'était non, c'est une dieucidence. Et j'aime cette nuance-là. Regardez au verset 3, littéralement, nous, quand on lit dans notre version, au verset 3, ça dit, « Elle se trouva par bonheur dans la parcelle de terre. » OK? C'est la traduction ici de Louis II, des années 70. Et chacune de nos versions a des petites nuances ici. Mais littéralement, on lit, « Elle se rencontra une rencontre dans la portion du champ de bois. » C'est drôlement dit pour nous autres, c'est pour ça qu'on a une certaine liberté dans la traduction. Elle rencontra une rencontre. Mais le mot « rencontre » ici, c'est un mot lorsqu'il est au passif qui montre clairement qu'il y a quelque chose d'extérieur qui a fait cette rencontre-là. Ça sous-entend ici une rencontre providentielle, une action qui est faite par chance, par bonheur. Et on comprend ici que le verbe au passif, la circonstance du timing où ce qu'elle arrive à payer, sont des clins d'œil de Dieu qui prend soin d'elle et qui la conduit comme par hasard. Ou comme par Dieu's art, au bon champ, où ce qu'il y avait un monsieur bien gentil, et un monsieur qui avait un lien familial, mais elle ne le sait pas du tout. Et ce que le texte est en train de nous dire en partant, c'est que Dieu fait un petit clin d'œil, puis il dit, je prends soin d'elle, regardez-moi bien aller, regardez-moi bien dans ma manière très unique de faire les choses, de prendre soin de mon peuple, de prendre soin des vulnérables, et de les conduire dans des circonstances ensemble. Et c'est intéressant, le mot « coïncidence », évidemment, vient du mot « coïncider »,« ensemble ». Donc, des événements qui arrivent en même temps, au bon moment, et qui se chevauchent, et tout à coup, il y a quelque chose qui arrive, que nous, on appelle, les humains, par hasard. Mais ces événements simultanés traduisent un Dieu qui est au contrôle. Et donc, est-ce que c'était par hasard, ou plutôt des coïncidences qui sont des dieucidences? Un homme racontait son histoire. Il dit, « Je suis entré dans une nouvelle classe à l'université et j'ai pris place à côté d'un homme qui m'avait l'air bien gentil. » Il dit, « Nous avons commencé à parler. » Il m'a raconté que la meilleure chose qui lui était jamais arrivée dans sa vie était d'écouter sa femme qui lui parlait de Jésus-Christ. Il était à l'université, là, il ne s'attendait pas à ça. Puis l'autre commence à y parler de ça. Et il avait dit comment il avait lutté avec cette décision, mais qu'il avait finalement décidé de tourner de bord et de faire confiance au Seigneur. L'homme qui parle de cette histoire-là, il dit, « Je ne pouvais pas en croire », poursuivit-il ce jeune homme. « Ma femme est également chrétienne, moi aussi. » Quel hasard! Et elle me parle aussi du Seigneur. Elle avait, et avant de m'asseoir à côté de cet homme, j'avais pensé de donner ma vie à Christ. Et grâce à son encouragement, j'ai pu le faire. Quelle coïncidence que ce soit, il se soit assis à côté de moi et qu'il vive des circonstances semblables à moi. Coïncidence? Ou dieucidence. Disons-le ensemble. Coïncidence ou dieucidence. Ne l'oubliez pas. Parce que vous savez, l'ennemi de nos âmes ne veut pas qu'on voit les dieucidences, les hasards de Dieu, qui nous place à chaque fois contemplatifs et respectueux devant Dieu. Il dit, hey, wow, tu parles d'un temps. Merci Seigneur. Et là, quand tu vois les dieucidences, tu es reconnaissant. Tu n'es pas dans la prétention, n'est-ce pas? Tu es dans la reconnaissance parce que Dieu te fait un clin d'œil et il te montre qu'il prend soin de toi. Mais quand tu vois pas les dieucidences, qu'est-ce qui arrive? Ben, tu te débats. Tu te débats comme le yard dans l'eau bénite, comme on dit au Québec, hein? Tu essaies de survivre, de te sortir toi-même, de créer ta chance. C'est ce que les gens nous disent, n'est-ce pas? Mais quand tu vois des dieucidences, ouh, ton cœur se calme. L'anxiété diminue. Parce que c'est pas à propos de ta performance, c'est à propos de voir ton Dieu à l'œuvre, de te calmer et de faire confiance. Mais l'ennemi veut surtout pas que tu vois les dieucidences. Il veut qu'il voit juste des hasards que tu crées favorablement par des bonnes décisions, des bons conseils seulement, et non un Dieu bon, un Dieu gracieux. Quelle différence dans notre manière de vivre et de voir les choses. Ça change complètement notre attitude. Peut-être c'est notre prière ce matin. Seigneur, tu peux-tu m'aider? J'ai tendance à voir le négatif. Et je ne te vois pas prendre soin de moi. À cause de ça, je suis chialeux, chialeuse. Je me plains sur mon sort. Puis je me prive de bonheur de te voir à l'œuvre. Tu peux-tu m'aider? Peut-être c'est votre prière aujourd'hui. Que le Seigneur nous accorde de le voir prendre soin de nous. Et une autre expression importante ici, elle cherche quelqu'un auprès duquel elle va trouver grâce à ses yeux. Le mot « yeux » ici est utilisé 4 fois dans le texte, et vous rappellerez qu'on est dans le temps des juges. Et qu'est-ce qui se passe dans le temps des juges? 2 choses importantes. Les gens faisaient ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Vous rappelez de ça? Ils firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il y avait un jugement. Ils firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ça arrive 7 fois dans un cycle qu'on voit dans le livre des juges. Ça va bien, les gens faisaient ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Fait que c'était pas beau ce qu'ils voyaient. Et en plus, on nous dit à cette époque-là, chacun faisait comme il semblait bon à ses yeux, comme aujourd'hui. Mais là, elle a dit, moi, je voudrais trouver quelqu'un qui, auprès de ses yeux, que je trouve grâce, qui va me vouloir du bien, sans retirer quelque chose. Vous voyez? Nuance. Sans vouloir en retirer quelque chose. Et c'est ce que elle espère. Et donc, 4 fois dans ce chapitre, cette expression-là revient. Merci d'avoir trouvé grâce à tes yeux. Oh, que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Oh, merci. Ah, vous me direz, oui, mais elle a trouvé grâce à ses yeux. Mais c'est parce qu'elle a fait des bons coups aussi, là. Puis sa réputation, elle a aidé sa chance, elle. Elle a travaillé fort, elle s'est faite une bonne réputation. Puis tu vois, hein, elle a récolté aussi. C'est pas tous les autres voisins qui étaient membres de sa famille à elle. C'est pas tous les autres voisins qui étaient gentils, vous savez. C'est pas tous les autres voisins qui pratiquaient la loi pour glaner. C'est pas tous les autres voisins qui étaient libres éventuellement de se marier. Il y a bien des éléments là-dedans qu'on échappe et qu'on va se donner. Ah, oh, mais j'ai fait des bons choix, ça m'a aidé. Attends un petit peu. Même tous tes bons choix de ta vie ne te garantissent pas ta santé. Un de mes professeurs, pendant que j'étais à l'école publique en 3e année, avait 67 ans. Il était comme André, en forme, il faisait du jogging. Il est mort d'une crise cardiaque sur le bord de la route en faisant son jogging. Il faisait tout ce qu'il était supposé de faire pour avoir une bonne santé. Vous savez, on va tous mourir. Et c'est pas les en bonne santé qui vont moins mourir que les autres. T'sais. C'est bien d'être en bonne santé, de bien manger. C'est bien, mais ça ne fait pas que ça garantit des choses. Vous savez. Tout n'est que pure grâce de Dieu. Et on l'oublie. Et donc, est-ce qu'elle cherche qu'elle ait trouvé grâce aux yeux? Et donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce que cette Moabite va trouver grâce aux yeux de quelqu'un lorsqu'on commence les versets? Et tranquillement, on découvre un homme qui se démarque des autres et qui y porte attention. Une femme qui trouve grâce aux yeux de Boaz sous la providence de Dieu. OK? C'est pas par hasard, c'est pas parce qu'elle a créé sa chance, c'est sous la providence de Dieu. Point à la ligne. Et le texte est clair. OK? Et c'est intéressant, on nous dit un paquet de qualités sur cet homme-là qui se démarque. On le dit un homme vaillant. Et donc, là, on se dit, ben, on voit aussi qu'il y a des valeurs morales aussi. C'est pas juste qu'il va être riche. C'est pas juste peut-être qu'il avait été bon à la guerre à un moment donné. Mais on voit aussi comme propriétaire, le gars, il est vraiment fin. Regardez comment que, on remarque que c'est un homme respectueux avec ses employés. Oh, hey, dépêche-toi, t'es là. Tard, là. Non. Hey, content de voir que le Seigneur te bénisse. Hey, que le Seigneur te bénisse, patron. Hey, c'est-tu le fun de rentrer au travail de même? Un homme qui est gentil avec ses employés. Quel bel exemple. Parce qu'on trouve pas ça partout, nécessairement. Mais on en connaît, des croyants comme des incroyants, qui ont cette gentillesse. Et que ça fait une différence. Un homme qui a de l'initiative, qui n'attend pas qu'elle vienne vers lui, il s'informe. C'est qui elle? Ah ouais, on va la voir. Il n'a pas attendu qu'elle vienne le voir. Il a pris du leadership, de l'initiative, il va la voir. Parce que c'est elle qui est vulnérable. C'est lui qui est supposément en contrôle, qui est au contrôle de la situation, qui peut décider des choses qui vont avoir un incident sur elle. Il prend l'initiative d'aller y parler gentiment, de la rassurer, de dire, « Hey, je t'ai vu. » Puis écoute, je veux que tu saches que je suis au courant, puis ici, t'es protégé. Je vais veiller à ça. Wow, belle initiative. Pourquoi attendre après les autres? Si vous avez une occasion de pouvoir sur une décision, prenons l'initiative. Au lieu d'attendre qu'on vienne vers nous puis qu'on se centre sur nous. Un homme d'initiative. Un homme qui sait honorer une femme vertueuse. Il va le dire au chapitre 3. J'ai vu, j'ai entendu, mais là, je vois, t'es une femme vertueuse, toi. Et là, pour tous les Juifs qui lisent l'histoire de Ruth, qui se trouvait, pour plusieurs dans l'Antiquité, le plus ancien, on croit qu'ils formaient un seul livre, le livre de Juges et Ruth ensemble, mais plus tard dans l'histoire, on voit que Ruth a été mise derrière le livre de Proverbes qui terminait, on l'a mentionné, avec le proverbe 31 qui parle de la femme vertueuse. Et là, tout à coup, la seule femme dans tout l'Ancien Testament auprès duquel on colle ce titre-là, c'est une foutue Moabite. Les voisins qui sont descendants d'une relation entre Lot et ses filles qui étaient sous bord. c'était pas vraiment les voisins favoris des Juifs. C'était des cousins de la fesse gauche, bien loin, avec lesquels ils essayaient de pas avoir de party de famille, puis de jamais les inviter. Puis le Seigneur avait dit, tu les invites pas au temple, garde-toi l'un d'eux autres. Puis dans l'histoire, ils vous ont voulu beaucoup de malheur. Bien là, la seule de toute l'Ancien Testament, imaginez on va le dire en moquer, la claque sa gueule pour les femmes juives, là, depuis 2000 ans, là. La seule que le titre, c'est qui? C'est une Moabite. Ailleurs, c'est-tu un clin d'œil à Dieu pour dire, c'est pas bien d'être juif pour être vertueux, gang, Peut-être la virtuosité se trouve là où tu le penses pas, chez quelqu'un que tu méprises, que tu regardes avec condescendance, qui peut-être est plus moral que toi, honore plus Dieu dans sa vie, et qu'on regarde de haut. Moabite. Ben oui, la foi se trouve dans ce qui est méprisé. Vous avez vu ça dans l'Ancien Testament souvent? Que Dieu prend plaisir de se glorifier dans ce qui était méprisé. N'est-ce pas l'humour de Dieu? De prendre ce qui est regardé comme rien et d'en faire quelque chose de waouh. Ça, c'est notre Dieu. Et il le fait avec moi. Ruth, et pour tous les Juifs, c'était une claque sa gueule de les Ruth. Quand tu y penses, là, quelle claque d'humilité. Pas à peu près. Un homme qui encourage, des paroles d'encouragement, comme on a besoin de tout ça. Des simples paroles d'encouragement. Je vois ton travail. Continue. Je suis derrière toi. Tu peux compter sur moi. Donne un petit cadeau pour encourager. Waouh! De l'encouragement. Un homme hospitalier, il l'invite à manger avec sa gang, puis il partage avec elle. Puis il s'assure qu'elle a mangé, là, puis elle s'est plainte parce qu'il sait qu'Aglan, elle va travailler fort toute la journée, elle est au soleil, elle va ramener tout ça pour sa belle-mère. Elle ramène même de l'extra du lunch pour le partager avec la belle-mère le soir. Parce qu'elle est tellement rassasiée, tu peux partir avec le restant. C'est comme quand on a une activité spéciale, puis là, il reste toujours des beignes, puis là, tu peux partir avec les beignes. Moi, mes enfants sont toujours contents que je ramène des beignes, c'est sûr. On aime ça, ces restants-là. Écoute, hospitalier, un homme protecteur. Il parle, vous la protégez, il n'y a personne qui va t'écœurer, il y a personne, si il n'y a pas de danger, il y a des places, que peut-être c'est dangereux qu'une femme soit violée par les gars qui travaillent fort, puis qu'il la traite mal, ou qu'il traite, qu'il te pousse, qu'il soit violent même avec toi. Ça, t'es protégé. En anglais, I got your back. Je check ton dos, il n'y en a pas un qui va t'écœurer, ça. Parce qu'ici, c'est moi qui veille au grain sur mes employés. Puis quand je dis quelque chose au contremaître, il veille à ça, puis toi, là, ici, là, t'es à ta place, il n'y a pas de danger pour toi. Pour une femme, t'es dans un endroit où ce qu'on se soucie de ton bien-être. Puis on dit, il n'y a personne qui va te faire du mal ici. Je m'en occupe. Wow! Un homme protecteur et finalement généreux. Toute une autre mentalité de ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les hommes d'affaires qui sont souvent portés vers le profit, 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 profit. Puis on ne partage pas souvent la richesse avec ceux qui travaillent, qui rendent possible notre industrie. Lui, il est généreux. Et finalement, samedi ou vendredi, après que mon PowerPoint était fait, là, je l'ai mis en plus petit, là, il y a un autre point qui m'est venu qui m'a frappé. Wow! Un homme qui passe par-dessus les préjugés ethniques. C'est beau, ça? Contre les Moabites, lui, il passe par-dessus ça. Jamais il la traite différemment, mais qui voyait l'engagement de cette femme-là, et donc c'est sa foi envers le Dieu d'Israël qui était le plus important. C'était pas son ethnie. C'était pas les épices qu'elle mettait sur son poisson. C'était pas la senteur de sa bouffe, la couleur de sa peau, la manière qu'elle s'arrangeait les cheveux, la manière qu'elle s'habillait, la manière que ci ou que ça qu'on voyait à l'extérieur. Non, lui, il passe par-dessus les préjugés ethniques, même dans la loi. Wow! Quel homme! Quel homme! Il n'est pas parfait, là! Mais que de belles qualités qui, pour nous comme hommes, sont inspirantes. Aïe, aïe! Là, je comprends quand c'est un homme vaillant. Un homme, en fait, moi, je dirais plus, c'est un homme vertueux. C'est ça qui fait plus justice dans le contexte comme traduction. C'est un homme vertueux. Puis là, c'est une femme vertueuse qui rencontre un homme vertueux. Et qui font un match parfait, sans passer sur Tinder ou toutes les autres choses qu'on peut utiliser. Spécial quand même, hein? Il y avait des matchs qui se faisaient avant sans ça. C'est spécial. Ah, je dis ça de même, là. Donc, une femme qui trouve grâce aux yeux d'eux. Il y a tellement de choses qui pourraient être mentionnées ici, mais avant de passer au prochain point, je vais juste vous lire ici ce qu'un homme a dit face à justement cette question d'être homme d'affaires. Écoutez bien. C'est M. Golding Gay, un théologien que je respecte beaucoup. Et il dit, le contexte de cette histoire est le type d'intérêt que la Torah, la loi, porte aux personnes dans le besoin. Donc, c'est un reflet de comment la parole de Dieu s'intéresse à ces gens-là, tels que les veuves comme Naomi et Ruth. Dans notre culture, nous partons du principe que tout doit être fait pour un maximum d'efficacité économique, la productivité. Lorsque les conditions économiques sont difficiles, les entreprises licencient leurs employés et doivent alors se débrouiller seuls. C'est pas mon problème. Que peuvent-ils faire d'autre? On se pose comme question. Si elles ne prenaient pas de telles mesures, les entreprises elles-mêmes pourraient disparaître. La nécessité de prendre ce type de mesures est intégrée au système lui-même. C'est comme ça, puis c'est normal de faire ça. Et source, évidemment, de croissance et de réussite, mais aussi de beaucoup de souffrance. Dans une société traditionnelle, qui est celle-ci, le système présent des avantages et des inconvénients est opposé. D'autre part, les moissonneurs qui récoltent le grain n'essaient pas de trop être efficaces. Ils laissent quelque chose derrière pour les personnes à qui il n'appartient pas, des familles régulières, et qui n'ont pas de champ à cultiver, contrairement à la majorité, et qui n'ont aucun moyen de s'assurer qu'elles ont de la nourriture à manger. Quelle belle attention signée Dieu. Ça, c'est l'attention de Dieu. Plus encore, les yeux gracieux de Boaz et Ruth nous imposent certaines questions d'auto-évaluation pour nous-mêmes aussi. Est-ce que nous avons aussi cette même attention pour les gens de l'extérieur de nous, pour accueillir l'étranger, ou les personnes qui s'intègrent pas naturellement à notre communauté? Avons-nous cette même attention? Qu'est-ce que nos yeux voient lorsque je vois l'autre? Mes yeux à moi. Parce que c'est toujours une question de mes yeux. Qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce que mes yeux remarquent? Est-ce que nous voyons la personne nouvelle dans la foule du dimanche matin à l'église, dans ma rangée, comme lui a vu Ruth? Nos yeux vont plutôt naturellement sur nos amis, sur les gens qu'on connaît, qu'on est rassurés, qui sont comme nous. Ainsi, il passe complètement à côté du marginal, de l'étranger qui est différent de moi. Immigrant ou sans-abri, pauvre ou en besoin, les négligés de la société. Nos yeux ne voient pas facilement ce que Boaz voit chez cette femme. Car souvent, nous ne cherchons pas ces gens. Et ils sont invisibles à la préoccupation de nos yeux, du moins naturellement. Boaz, lui, est allé beaucoup plus loin que la simple obligation sociale et religieuse. Il fait le mille de plus. Et il prie du temps. Il parle avec elle. Il lui pose des questions. Il lui montre de l'intérêt. Il fait la conversation, malgré que parfois ça peut être un peu malaisant. Il fait la conversation avec une femme, pas juste quelqu'un du même sexe. Les politesses vont des deux côtés. Il paya le prix d'aider aussi cette proche en étant généreux et de prendre des mesures pour assurer sa protection. Quel exemple inspirante d'un cœur de compassion sensible et actif pour l'autre qui est différent et qui est en besoin. Je le répète, quel exemple inspirante. Pas pour me culpabiliser, non, pour m'encourager. Seigneur, accorde-moi ces qualités de cet homme qui, certainement pour être comme ça, c'est un homme qui aimait Dieu, un homme qui avait une relation avec Dieu, un homme qui lisait la Torah et qui, à cause de ça, exprimait les mêmes pensées de Dieu dans sa vie de tous les jours. Inspiré d'avoir un cœur de compassion sensible et actif pour l'autre qui est différent de moi et qui est en besoin. Et on dit la quantité, vous avez remarqué au verset 17? Un épha. Nous, on est comme, OK, ouais, un épha. Un épha. C'est un peu embêtant, un effort. C'est quoi un effort? C'est abstrait pour nous. Selon les auteurs, ça joue autour de 29 à 50 livres. C'est comme, dans le fond, vous savez, c'est les gros sacs de bouffe de chien, là, de pesant, là, c'est comme ça l'épaule. Ben, ça ressemble à peu près à ça, grosso modo. OK? Gros sac de chien pesant, là, qui fait 20, 25 kilos, 30 kilos peut-être. Et c'était l'équivalent, dans le fond, de quelques semaines de nourriture pour un ouvrier moyen. Fait que quand la belle-mère la voit arriver à la maison, oh! qu'est-ce qui s'est passé, là? La belle fille? Tabarouette, elle travaille plus qu'un homme. Hein? Vous voyez qu'elle va bénir à la fin. Et tout ça nous amène à voir Dieu qui va adoucir le cœur de cette femme qui se sentait abandonnée de Dieu. On va lire ça. Alors, une femme qui apporte de l'espoir à Naomi, qui reconnaît la bonté de Dieu. On va lire ces versets 18, je pense que j'avais arrêté au verset 18. Ouais. Ils ont ensemble. Elle l'apporta, donc l'épha, OK, qu'elle avait battu. Donc, ce qu'elle a resté, c'est pas toutes, c'est les grains qui ont été écrasés, là. C'est pas toutes les gerbes attachées qu'elle traîne à la maison, là. Il y en aurait eu trop. Elle a fait tout le travail, elle a battu le grain, et ce qu'elle a, c'est ce qu'elle va faire de la bouffe avec, là. OK? Elle l'emporta et rentra dans la ville et sa belle-mère vit. Soulignez ça. Elle vit, elle a vu. Dieu lui permet de voir concrètement son action dans un langage qu'elle peut comprendre, la bouffe. Sa table. Parce que quand t'as pas de bouffe sa table, t'as mal au ventre. Quand t'as de la bouffe sa table, puis tu vois arriver des grosses quantités, ça attire ton attention. Et Dieu savait qu'il y avait de l'insécurité, il amène de la bouffe sa table. Ce qu'elle avait glané, elle sortit aussitôt les restes de son repas aussi et lui donna. Quelle belle fille! Sa belle-mère lui dit, « Oh, où as-tu glané? » Et c'est intéressant, le mot « effa » puis le mot « où », là, il y a un jeu de mots que l'auteur est en train de faire parce que c'est le même mot. « Effa »,« effo ». Puis il est en train de faire un jeu de mots ici, « l'effa », puis le « oh, où as-tu glané? » qui se fait dans le juste. C'est un peu une manière poétique que les Juifs vont mettre dans les textes narratifs des jeux de mots, des assonances. « Où as-tu glané aujourd'hui? Où est-ce que tu as travaillé pour être aussi productive? » Où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Parce que tu peux pas avoir tout ça, ça aurait été intéressé par quelqu'un. Il y a un gars qui t'a tombé dans l'œil, c'est certain, là, c'est certain. Écoute, ça n'a pas de bon sens, là. Moi, je ne m'attendais pas à ça, là. Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui elle avait travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. Ah ben, la belle-mère, là, tout à coup, là, elle capote, là, tu sais, là. Elle saute sa table. Naomi dit à sa belle-fille, « Qu'il soit béni l'Éternel qui se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts. » Là, soulignez ce verset-là. Là. Le verset 20, il faut vous mettre un gros astérisque, c'est là que vous prenez un highlighter, vous mettez une autre couleur. Tout le verset 20 ici, là, est clé. Parce que pour le juif, là, t'es en train de lire le livre de Ruth, puis à toutes les fois, les Juifs, ils aiment ça, ils calculent les mots. Puis là, ça, c'est le verset central. T'as autant de versets puis de mots avant et après ce verset-là. C'est le verset au centre du livre. Et là, pour la première fois, on va évoquer l'idée d'un rédempteur. Et là, dans ce verset central, t'as le mot qui dit, voici une expression de la bonté de Dieu, la recette de Dieu. C'est un mot extrêmement fort chez les Juifs. C'est le mot le plus fort pour décrire l'amour, la bonté, la miséricorde, l'attention gentille de Dieu qui tient ses promesses. Tellement que c'est comme, tu peux le décrire avec nos traductions, des fois, ils vont dire bonté. Moi, j'aime mieux traduire bonté. Il y en a qui vont le traduire miséricorde, qui a fait grâce, qui a son amour bienveillante. Donc, ça, parce que c'est un mot tellement riche et tellement fort pour les Hébreux, pour parler de ce Dieu de l'Alliance qui prend soin de nous et dont l'expression d'amour est incroyable, c'est un amour d'alliance. Que je me suis engagé envers toi, puis c'est pour ça que je suis là, tu peux compter sur moi, c'est l'expression de ma pure bonté envers toi. Et là, elle fait une cause à effet ici, puis elle dit, béni soit l'Éternel. Celui qui m'avait, que je chantais, qui m'avait abandonné, là, puis que je chantais que j'étais une maudite, hein, j'avais quitté, puis là, j'avais juste les malheurs sur moi, puis que Dieu m'a abandonné. Et là, Dieu fait un clin d'œil tellement gros que là, elle dit, qu'il soit béni. Ce Dieu qui est miséricorde, qui est rempli de bonté, qui a un amour bienveillant pour les vivants et pour les morts. Pour moi et ma belle-fille qui sont vivants. Pour tout le monde. Cet homme est notre parent. Lui, dit encore Naomi, il est de ceux qui ont le droit de rachat sur nous. C'est un de nos rédempteurs potentiels. Alors là, pour nous, on est comme, oh, rédempteur, ça veut dire rédempteur, OK, ouais. On va en parler une autre fois. Là, on en mentionne pour la première fois, mais vous allez voir, le livre de Ruth, c'est le mot-clé pour le livre de Ruth. Mais, rappelez-vous une chose ici, là. Quand vous lisez le texte, le mot qui vient avant rédempteur, qui est vraiment important, c'est la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, sans aucun mérite est exprimé par le fait qu'il le conduit dans le champ de celui qui était potentiellement un proche parent rédempteur, qui pouvait la sortir de sa misère, qui pouvait faire une différence dans sa vie sans aucun mérite de sa part, qu'une pure grâce. Et on va définir c'est quoi un rédempteur à la prochaine fois pour comprendre comme vous dans la culture juive, c'est quoi un rédempteur. Et peut-être en comprenant c'est quoi un rédempteur, vous allez mieux comprendre votre rédempteur, ce titre qu'on donne à Jésus et qui des fois un peu devient un titre religieux, un peu abstrait. Oui, mon rédempteur, qu'est-ce que ça veut dire vraiment rédempteur? Et le livre de Ruth, c'est l'illustration dans tout l'Ancien Testament. Ce livre d'une femme moabite nous donne l'illustration la plus puissante de l'Ancien Testament de ce que c'est un rédempteur. Mais un rédempteur ne vient pas juste de même. Un rédempteur est l'expression de la bonté de Dieu. C'est ce que je veux que vous reteniez ici. Là. Et elle, qu'est-ce qu'elle célèbre? Pas le rédempteur. Elle célèbre la bonté de Dieu qui pourvoit un rédempteur et que tu es dans le bon champ. C'est important, là. Parce que sinon, on pourrait perdre de louanger le rédempteur. Non, non, non. Le Dieu qui pourvoit le rédempteur, c'est lui la vedette. C'est lui qui orchestre tout. C'est lui qui a les dieucidences. Oubliez-le pas. Et au milieu de ce livre, célébrons ce Dieu bon, ce Dieu riche de miséricorde qui pourvoit. Il y aurait tellement de choses à dire, mais... Et je mets un petit commentaire ici que je me suis mis tantôt, qui m'est venu à la pensée. Vous savez, je l'ai mentionné tantôt, mais Satan veut que nous soyons aveuglés à la bonté de Dieu. Je l'ai mentionné brièvement tantôt. Et il sait comment c'est dangereux d'être aveuglé à la bonté de Dieu, mais aussi que quand on voit la bonté de Dieu, comment c'est dangereux dans notre vie aussi, comment ça nous fait virer de bord de voir la bonté de Dieu. Et il tente de voler à nos yeux, qui sont si facilement aveuglés, de voir cette bonté, parce qu'elle peut transformer notre vie. Quand tu vois la bonté de Dieu à l'état pur, ça dérange. Soit tu la rejettes parce que tu veux mériter, ça ne t'intéresse pas une grâce, tu sens que tu as une dette, ou soit que tu tombes à genoux humblement et tu dis, « Merci Seigneur, prends tout Seigneur. » Parce que de voir la bonté à l'état pur de notre Dieu à notre égard, devant l'être crapuleux, naturellement pécheur devant Dieu que je suis, soit que ça amène à la rébellion, soit que ça m'amène à courber les chines, à tomber à genoux humblement devant Dieu et dire « Oui, prends tout Seigneur, pardonne-moi s'il vous plaît. » C'est l'un ou l'autre. Et majoritairement, l'être humain, aussi fou que ce soit, décide de rejeter. J'en veux pas d'avoir une dette. J'en veux pas de quelque chose que je ne peux pas mériter. J'en veux pas de quelque chose que je dois quelque chose à quelqu'un. Je veux le gagner. D'où l'intérêt pour la religion. Où est-ce qu'on travaille à gagner? Mais une relation avec Dieu, recevoir une pure expression de beauté, de bonté de Dieu, ça désarme. Ça m'humilie. Et d'où la réaction humaine contradictoire, bipolaire, d'un bord et de l'autre. Voilà pourquoi c'est tellement important. Et remarquez aussi dans ces derniers versets, je vais lire. Ruth, la Moabite, au verset 22, ajouta, « Il m'a aussi dit, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. » Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, « Il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te retrouve pas dans un autre champ. » Ça ferait effectivement très fou de ta part. Il resta donc avec les serviteurs de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges, donc quelques semaines, et la moisson du froment, et elle demeura avec sa belle-mère. Et le chapitre termine comme ça avec un certain suspense. Non, on voit la réaction ici de Naomi qui dit « Reste là ». Est-ce que c'est une expression un peu de sa repentance qu'à une époque, elle était partie, elle, quand ça allait pas bien, puis elle était revenue, puis on l'a vu son cheminement de retour, de repentance dans le chapitre 1. Elle savait ce que c'était d'avoir vu le beau gazon chez le voisin, qui avait l'air mieux que chez nous. Puis elle était voir le gazon pendant 10 ans. Puis finalement, elle est revenue, parce qu'il n'était pas si vert que ça. C'était pas là où Dieu la voulait. Et donc, elle a vécu un retour. Et là, elle dit là, on ne change pas de champ. On va rester dans le champ que Dieu bénit. On va rester dans le champ que Dieu a conduit, puis on va y faire confiance. Reste dans ce champ-là. Une expression certainement de cela. Mais aussi, j'ai un ami qui m'a partagé un petit paragraphe tellement attentionné pour les célibataires. Écoutez bien ceci. On termine ce chapitre encore avec le souci pour cette femme qui est seule, qui est veuve. Et on se dit, mais qu'est-ce qui va arriver? On parle beaucoup de comment Naomi est consolée dans notre discours. Mais cet ami disait, je vois un certain encouragement pour les célibataires dans tout cela. On ne peut pas, comme Ruth, on ne parle pas, excusez-moi, comment Ruth se sent encore, moins comment Boaz se sent. Deux célibataires dont on ne connaît pas les causes pour Boaz. Pourquoi est-il célibataire? Est-ce que c'est parce que c'était le fils de Rahab, la prostituée? Est-ce que c'était simplement un vieux célibataire qui n'avait pas encore trouvé chaussure à son pied? Ou un homme veuf, un peu plus vieux? L'histoire ne nous le dit pas. On sait juste qu'il est libre sur le marché des joueurs autonomes. Et il attend d'être recruté. Hein? Il n'avait pas trouvé encore. Mais je sais que c'est souvent vrai du ministère. On développe une camaraderie immédiatement avec ceux avec qui on vit les mêmes passions dans le service du Seigneur, ou la même solitude que nous, qui savent c'est quoi la solitude que je vis. Et on dirait que je vois cette dynamique qui se développe entre Boaz et Ruth, deux célibataires qui certainement ont des choses en commun qu'ils vivent ensemble. On ne dit pas si Boaz l'a eu à la dure, ou s'il pourvoyait lui aussi, comme elle, pour ses parents, qui étaient plus âgés que lui. On ne nous donne rien comme détail. Mais Boaz voit plus que juste la situation. Et il le nomma plus tard que Ruth ne chercha pas les jeunes hommes comme elle aurait pu pour essayer de se trouver un autre joueur autonome comme elle. Puis dire, oh, non, elle ne cherche pas un homme. Elle cherche à honorer Dieu en tenant sa promesse envers sa belle-mère d'en prendre soin et de travailler fort. Et c'est dans le service fidèle qu'elle rencontre celui-ci. Mais c'est dans le service avec foi et dévotion qu'ils se sont trouvés tout à coup. Ce n'est pas sur Facebook, ni sur Tinder, ni sur TikTok qui ont brisé leur solitude. C'est dans le service, dans un service qui requiert toute leur énergie, dans lequel ils ont trouvé la personne que Dieu avait pour eux. Que c'est réconfortant. En tout cas, on dirait que c'est la première fois, il dit, que je me penche sur cette dynamique entre ces deux. J'ai trouvé ça intéressant comme réflexion. On peut tellement chercher qu'on attend de faire. Vous savez, on peut tellement chercher qu'on, j'oserais pas le dire, mais de donner un petit coup de main à Dieu. Non, on ferait jamais une chose comme ça. Ça serait arrogant de notre part, n'est-ce pas? On donnerait pas un coup de main à Dieu. Peut-être un petit peu. Juste un petit peu. En priant. Je donne un coup de main à Dieu, mais en priant, je donne un coup de main. Vous voyez? Pas pareil. Si je le fais en priant, ça vient bénir le coup de main. Hein? On est de même. C'est qui que Dieu a choisi? C'est qui a choisi pour Ruth, l'époux? C'est les dieux-sidants. C'est Dieu qui a amené. C'est pas elle. Et c'est ce qui est intéressant ici. Quel encouragement pour ceux qui sont célibataires. C'est-à-dire, continuons à être fidèles. Laissons Dieu m'amener vers la personne et pas de courir. Et là, après ça, d'avoir des doutes, ça va pas bien. C'est-tu parce que j'ai forcé les choses? C'est-tu parce que je me suis aveuglé? C'est-tu parce que je cherchais tellement à combler un besoin que j'ai fermé les yeux sur des sphères? Ou est-ce que c'est Dieu qui me le conduit puis c'est juste des épreuves normales? Mais là, quand tu as forcé les cartes, qu'est-ce qui arrive? Tu as des doutes après ça. C'est peut-être de ma faute. C'est peut-être moi que... Si tu n'as pas senti que c'est Dieu qui a amené tout ça ensemble. Vous voyez? Quelle différence! Et j'en parle parce que, vous savez, ça arrive plus souvent qu'on le pense. Puis on le fait pas juste dans notre célibat, on peut le faire dans tellement d'autres domaines. Parce qu'on force un peu les cartes pour qu'ils jouent de mon côté, puis que ça joue sur ma chance à moi. Faisons confiance à Dieu. Il mérite ma confiance. Et le livre de Ruth nous dit, ce Dieu bon mérite ta confiance. Peu importe, c'est quoi ton souci? Un auteur a bien résumé pour ceux qui étudient le livre et fait cette observation en terminant. Il dit, surveillez la montée en puissance de l'anticipation au fur et à mesure que le chapitre se déroule. Nous faisons la connaissance de Boaz au verset 1 et là de l'initiative de Ruth qui, comme par hasard, glane dans le champ de Boaz. Puis c'est le tour de Boaz qui fait preuve de bonté. Il bénit Ruth au nom de Yahweh pour sa bonté envers Naomi. Elle travaille et mange avec les moissonneurs sous sa protection. Et son glanage devient plus important à la suite de ces consignes qu'ils reçoivent, parce que là, finalement, elle vit de l'abondance. Remarquez également comment, à la fin, Naomi bénit Boaz, mais bénit Dieu en premier, pour sa gentillesse envers Ruth et par l'intermédiaire de Ruth envers elle-même. Avec une dernière phrase au verset 23, le narrateur passe à la fin de la récolte pour nous préparer à la suite. Qu'est-ce qui va se passer? Comment les cartes vont se jouer? Et ça nous laisse en suspens. Et en attendant, que puis-je retirer de cela ce matin? Bien, premièrement, pour nous les hommes, prions Seigneur. Seigneur, donne-moi d'être un homme valeureux. Un homme de valeur comme Boaz. Je ne veux pas être Boaz, je veux être l'homme que tu veux que je sois, Seigneur. Je n'ai pas le même appel que Boaz, les mêmes circonstances, mais accorde-moi d'être un homme de valeur. Un homme vaillant, dans tous les sens de cette vaillance-là. Y a-t-il des choses, Seigneur, que j'ai vues dans cette vaillance-là que tu veux travailler dans ma vie? Que, oh, ouais, c'est vrai que ça ne me caractérise pas. Et autant pour nous les hommes que les femmes, n'est-ce pas, dans le modèle de Ruth et de Boaz. Un modèle de femme de service qui se soumet à Dieu, qui ne regarde pas se protéger elle-même, mais qui tient ses promesses. Je vais en prendre soin de ma belle-mère, coûte que coûte. Mon célibat, ça va passer en deuxième, j'ai fait un engagement. À Dieu s'occuper de tout ça. Moi, je vais juste faire ce que j'ai à faire. Et dans la volonté de Dieu, je vais juste faire confiance que Dieu, dans la fidélité à ce qu'il me demande, va prendre soin de mes besoins. Et ça, c'est dur, parce que nous, on essaie de faire des choses, mais en prenant soin de mes besoins. Puis je suis pas en train de dire qu'il faut se négliger, c'est pas ça que je suis en train de dire. Puis non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais on est des êtres tellement centrés sur soi naturellement, n'est-ce pas? On a une lutte continuelle, chacun d'entre nous. Et on aide les autres en voulant s'aider aussi. On aide les autres en espérant qu'on ait un retour. On aide les autres pour paraître. C'est dur à aider de manière détachée par pure bonté. C'est pas naturel pour nous. Oui? Puis c'est comme, Seigneur, je veux juste le faire pour t'honorer puis te faire confiance pour le reste. Et ça, c'est un acte de foi, les amis, de me montrer dépendant de Dieu puis qui mérite ma confiance, que mon Père céleste sait ce que j'ai de besoin puis c'est suffisant. Je n'ai pas à m'en occuper. J'ai juste à être fidèle à ce qu'il me demande à moi, pas à l'autre, à moi. Puis d'être trouvé fidèle, comme Boaz a vu Ruth fidèle. Que le Seigneur nous accorde cette même fidélité que Ruth démontre ici dans son service. Par-dessus tout, nous voyons la providence de Dieu. Il ne permet rien pour rien. Nous voyons la bienveillance à l'égard de sa fidélité, de sa fidèle servante et de Naomi qui a besoin d'être restaurée, qui a besoin de revoir son Dieu qui prend soin d'elle après s'avoir éloignée, de se sentir abandonnée de Dieu, de se sentir devenue une maudite. Et parfois, ça peut arriver dans une série de peut-être de péchés qu'on a fait, d'éloignement, qu'on se sent qu'il y a un nuage gris toujours autour de moi. Moi, j'ai un beau-frère, on rit souvent de mon beau-frère Pierre, puis on dit souvent, Pierre, puis son nuage gris, il y a toujours des malheurs qui arrivent dessus, on le taquine avec ça. T'sais. Mais des fois, on se sent de même. On sent comme ça que c'est toujours sur moi, on dirait que ça tombe. Puis Seigneur, tu peux-tu me sortir de ce sentiment que je suis toujours dans des malheurs? Et là, on est accablé, découragé. Que le Seigneur nous accorde de voir sa bienveillance, auquel on est peut-être aveuglé présentement. Seigneur, est-ce que mes yeux sont fermés à quelque chose que j'ai besoin de voir? Ouvre mes yeux! Donne-moi ce miracle de libérer les coquilles qui ne me permettent pas de te voir. Comme, vous savez, ce serviteur d'Élisée, à un moment donné, qui était devant une grande armée qui les attaquait. Puis là, il lui permet, il prie le Seigneur qui ouvre ses yeux pour voir les armées célestes qui sont là pour le délivrer. Vous vous rappelez cette histoire? Il dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Et on dit, l'Éternel, après ça, l'Éternel ouvrit ses yeux. Et il vit l'armée des cieux, auquel on a besoin de voir régulièrement. Ah, Dieu est bon, il est là, il ne m'a pas abandonné. Il mérite ma confiance, c'est correct. Mais quand j'y suis aveuglé, ma vie n'est pas dans le même esprit. Peut-être avez-vous perdu cette joie ce matin, cette reconnaissance profonde. Et que c'est votre prière, Seigneur, redonne-moi la vue de voir ta bonté qui me prive de joie, de reconnaissance, de voir les besoins autour de moi, parce que sinon je regarde juste mes besoins. Et là, je ne vois pas clair. Dieu ne ferait-il pas moins pour vous et moi? Hein? C'est ce que l'histoire nous dit. Il va faire aussi pour nous. Une différente histoire qu'est la mienne, qu'est la vôtre. Une différente histoire. Une différente tournure. Ne demandez pas la même tournure d'histoire. Dieu, il n'est pas comme ça, il est original. Ton histoire va être unique. Il y a peut-être des comparaisons avec un autre, mais ton histoire est unique. Tu es son enfant unique. On est tous uniques. Et il interagit avec nous d'une façon toujours attentionnée et personnelle. Et il ne vous donnera pas le miracle de l'autre, parce que c'est le miracle de l'autre. Il va faire d'autres miracles dans ta vie. Seigneur, tu peux-tu me rassurer ce matin que tu m'accompagnes, puis interagir avec moi, comme tu l'as fait avec elle, mais de la façon que tu voudras. Je te fais confiance, Seigneur. Aide-moi à ne pas te donner des coups de main. Je trouve ça dur. Je vois des situations, je me dis, ah, je pourrais aider Dieu, là, lui donner un petit coup de main. Puis... Non, Seigneur, aide-moi à ne pas te donner de coups de main, mais à te faire confiance, à juste te tenir la main et que c'est suffisant. Amen. Prions, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole, pour cette histoire qui nous rassure. Ouvre nos yeux, libère les coquilles qui m'aveuglent de ce qui est tellement important et essentiel pour moi, Seigneur, de voir ta bonté. J'en ai besoin. On a tous de besoin, Seigneur. Et on lutte tous avec cela, un jour ou l'autre, de différentes intensités, parce qu'on est sur terre. Et c'est toujours un défi de vision. Enlève ces coquilles, Seigneur, ce matin. Que ce soit ce matin pour réaliser que mon Rédempteur, c'est Jésus, et pour lui donner ma vie ce matin, chose que peut-être je n'ai jamais fait encore. Libère mes yeux parce que j'ai perdu la joie, parce que peut-être je pense que ma vie, elle ne vaut plus rien, parce que peut-être j'ai été divorcé ou que j'ai fait des péchés, que je vais juste subir la vie jusqu'à ce que... Et j'ai abandonné, Seigneur, de te servir, de penser que je suis encore utilisable dans ta grâce, puis que je suis un chrétien de deuxième ordre. Seigneur, peu importe le besoin d'encouragement que nos cœurs ont besoin ce matin, on te demande de nous rencontrer. Fais-nous aussi un clin d'œil. Ce matin, j'ai vu un petit clin d'œil, Seigneur, que tu m'as fait. Ah, c'était banal, c'était tout petit, mais ça m'a fait du bien ce matin. J'en avais besoin d'un petit clin d'œil. Fais-le, Seigneur, s'il vous plaît. Aide-moi à m'accrocher à ta main et non de jouer les cartes dans ma main. Aide-moi à prier pour des hasards de Dieu et non que je fasse ma chance, comme le monde me dit de le faire. Oh Seigneur, quel contraste à ce que le monde me dit de faire et ce que tu me dis de faire. C'est viscéral en moi. Libère-moi de cette action humaine qui veut faire sa chance et de faire confiance au Dieu de providence. J'en ai besoin. Et peu importe c'est quoi que j'ai besoin de te confesser, Seigneur, ce matin dans lequel je lutte avec, je te le donne ce matin. Seigneur, prends-le. Interviens, glorifie-toi et que je puisse te vanter, Seigneur, de ce que tu as fait. Que je puisse le voir pour le partager à d'autres, pas le garder pour moi, mais te vanter, être fier de toi. Que ça rassure mon cœur, que ce Dieu bon, il est aussi mon Dieu à moi. J'en ai besoin. Et je te le demande dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.